Pour les personnes qui m'ont déjà entendu, je vais un peu, j'ai l'impression que je vais me répéter, notamment quand je vais parler de reconstruction et de Lopez, mais on peut pas, dissocier toute cette histoire. Donc, ce que j'aimerais bien vous démontrer, c'est que c'est vraiment une histoire de son temps, en fait. Le Val-Fouré n'est pas du tout une exception en France, et il y a beaucoup d'autres expériences qui ont été du même ordre. Alors, pour comprendre la naissance du Val-Fouré, il faut à la fois évoquer le contexte national, le contexte régional, le contexte local, ce que je vais faire. Et puis, on ne peut pas ne pas parler de Raymond Lopez, donc, qui est quand même le père fondateur de ce... du Val-Fouré, et un autre protagoniste très important qui est Henri Longepierre sera évoqué par Catherine, donc j'en parlerai très peu, et j'essaierai de vous présenter rapidement les grands secteurs du Val-Fouré, et puis en conclusion les difficultés et les transformations qu'il a connues. Alors le contexte national et régional, c'est effectivement l'après-guerre, hein, on est il ne faut pas oublier les destructions massives. C'est un texte qui était extrait d'un ouvrage qui s'appelle « Les grands ensembles ». Destruction massive, pénurie, exode rural, décolonisation, industrialisation. Voilà les mots lâchés. En fait, on est bien dans ce sujet-là. Et vous voyez, j'ai souligné aussi « modernité radicale », parce qu'effectivement, il s'agit bien de la recherche de la modernité. Alors, les destructions, bon, c'est des images que vous connaissez. 452 000 logements détruits dans toute la France. 1 436 000 endommagés, et à Mantes, donc, à la suite d'une quarantaine de bombardements, 460 logements détruits et 1 709 endommagés. Donc il y a vraiment un contexte important de pénurie de logements. Et cette pénurie, elle est aggravée aussi par le baby-boom, dont vous avez beaucoup entendu parler aussi. J'ai essayé de donner des chiffres qui concernent ce baby-boom. Donc on sait qu'il y a 800 000 naissances par an dans les années 1945 à 1965, et donc ce qui fait un excédent naturel de 300 000 personnes par an. C'est-à-dire, et à Mantes, la population passe de 15 000 à 26 000 en 1954 à 1962. Alors qu'est-ce que ça signifie, 800 000 naissances par an? Ça signifie que ces enfants qui sont nés donc à partir de 1945, ils vont arriver dans les écoles primaires en 1952, dans les écoles secondaires en 1957. À cela s'ajoute l'allongement de la durée de la scolarité à 14 ans, qui rajoute encore des besoins d'espace. Dans les universités en 1964 et sur le marché du travail vers 1970, justement, à partir de 1973, il va y avoir une crise économique, donc beaucoup de choses s'expliquent. Alors la population de la commune de Mantes donc peut s'évoquer de cette façon. Vous voyez une stagnation jusqu'au milieu du 19e siècle, et puis une légère augmentation qui correspond à l'agrandissement sur Mantes-la-Ville et surtout à l'arrivée du chemin de fer, par exemple. La fusion avec Gassicourt en 1930, qui entraîne une petite augmentation, le creux dû à la guerre, et le baby-boom, donc à partir de... Et puis de tous les aménagements qui ont eu lieu. Et puis tout en haut, la politique de la ville qui fait que la population va diminuer. Alors la pénurie de logements, elle est due à l'augmentation de la population, elle est due aux destructions de la guerre, mais elle est due aussi à l'exode rural. Au recensement de 1946, l'Île-de-France comptait 6 500 000 habitants, soit moins qu'en 1930, mais il y a une vague d'exode rural et qui fait que la population de la région parisienne augmente de 3 millions d'habitants. Donc c'est vraiment considérable. Et le solde migratoire est largement positif. Et ce sont des populations, ces gens qui quittent les campagnes, ce sont des populations jeunes, enclines à procréer. Donc ça accélère encore le processus. Bien sûr, la pénurie de logements, vous connaissez tous cet appel du 1er février 1954, de l'abbé Pierre, donc mes amis au secours, une femme vient de mourir gelée cette nuit à 3h sur le trottoir du boulevard Sébastopol. C'est pas qu'on ne s'occupait pas de logements, il y avait des logements d'urgence qui étaient développés depuis la guerre, mais les cités d'urgence, ce n'est même plus assez urgent, comme dit l'abbé Pierre. Donc le gouvernement ne va avoir de cesse que de construire des logements, et à partir de 1959, il va créer ce qu'on appelle les ZUP, zones à urbaniser en priorité, mais on n'a pas attendu 1959 pour que le processus se mette en route, et beaucoup de communes se sont lancées dans ce qu'on appelle aussi des grands ensembles. Donc De 1959 à 69, 197 ZUP ont été créées, dont celle de Mantes, dont on dit que c'est la plus grande. On est toujours le gagnant de quelque chose. Là, c'est la plus grande en taille. Et des grands noms d'architectes ont été associés à ces ZUP, comme Pouillon, Ayot, Dubuisson, Chemetov, Candilis, et puis Raymond Lopez aussi. Et voilà la carte donc qui vous montre que ça n'est pas un phénomène seulement francilien. Alors parmi des ZUP, donc voici celle de Chanteloup, donc c'est Émile Ayot. Le contexte est intéressant, bon, j'ai pas trop le temps de développer, mais à Chanteloup-les-Vignes, c'est vraiment l'État qui a imposé cette volonté de créer une ZUP. Le maire était vent debout contre, et de même que la population, mais comme le bulldozer de l'État, disons, l'a emporté. Il y a d'autres exemples comme aux Courtilières, donc, où ça avait, les ZUP dont je vous ai dit, c'est 1959, mais dès 1954, la ville de Pantin donc, avait, et les villes de Saint-Ouen se sont dotées de grands ensembles. Et puis, alors, j'ai rajouté ça parce que c'est extraordinaire, je trouve. À Saint-Étienne, donc pour vous montrer que ce n'est pas un phénomène typiquement parisien, a été construit en 1965 ce bâtiment dont vous voyez là la destruction, que les habitants locaux ont appelé la muraille de Chine. C'était le plus long bâtiment, on est toujours le gagnant de quelque chose, 270 mètres de long et 450 logements. Donc c'était vraiment quelque chose d'énorme qui a été détruit en 2000, comme le montre l'image. La population donc augmente aussi par le biais de l'immigration, et c'est les chiffres que vous voyez là, par exemple ceux de 1962, vous montrent que c'est essentiellement une immigration de gens qui viennent d'Europe, portugais, italiens, espagnols notamment, que les maghrébins sont relativement peu nombreux, et de même que les asiatiques, et puis vous voyez la courbe qui se développe ensuite, et il n'y a pas d'Africains non plus, d'Afrique noire qui se développe. Le contexte local, c'est bien sûr l'industrialisation. On est dans les Trente Glorieuses, donc vous avez des usines aux alentours qui sont extrêmement importantes, comme Ford, puis Simca, puis Peugeot à Poissy, qui a employé en 1970 27 000 employés, comme les usines Renault à Flins, qui au moment de leur apogée avait 18 000 employés. La Cellophane à Mantes-la-Ville, Sulzer à Mantes-la-Ville, ce sont les chiffres sont beaucoup moins importants, mais quand même, c'est des activités. L'aérospatiale au Mureau, la cimenterie Polier et Chausson à Aubergenville, Saint-Ger à Bonnières, la centrale de Porcheville, qui employait jusqu'à 500 personnes quand même au moment de son apogée. Donc, c'était des créateurs d'emplois. Le contexte local, c'est bien sûr la fusion de Mantes et Gassicourt, qui a lieu en 1930, sans laquelle le Val-Fouré ne serait pas né, puisqu'il est sur le territoire de Mantes. Alors, je rappelle un peu l'histoire. Mantes, la Jolie, qui s'appelait à l'époque Mantes-sur-Seine, est une ville gourmande qui lorgne sur ses voisines. Elle a même un moment lorgné sur Limay au début du 19e siècle, mais les habitants de Limay, je ne sais pas comment on dit, les Liméiens se sont défendus et n'ont pas été absorbés par Mantes, la gourmande, mais en revanche, un grand territoire de Mantes, la ville, a été absorbé, tout le territoire entre le chemin de fer et la Seine. Vous voyez, la ville ancienne de Mantes, c'est ce qui est en gris, et tout ce qui est blanc autour, c'est ce qu'elle avait obtenu en 1855, malgré l'avis contraire des habitants de Mantes. Et puis en 1930, donc, c'est le territoire de Gassicourt, avec ces énormes terres agricoles qui a été annexée. Et la fusion fait que la ville s'est appelée Mantes-Gassicourt pendant un moment. Voilà une vue aérienne qui vous montre, donc, on est du côté de Mantes et on regarde vers le Val-Fouré, mais là, le Val-Fouré n'existe pas. On voit l'importance de la voie de chemin de fer, donc on voit bien la route nationale qui conduit vers des champs, donc c'est dans ces champs que sera construit le Val-Fouré. Dans le contexte local, on ne peut pas échapper aussi à parler du maire Jean-Paul David et de sa passion pour la modernité. Donc le voici dans son bureau, donc c'est une photo du fond des archives municipales du fond Bertin. Jean-Paul David est maire de 47 à 77, c'est vraiment un maire épris de modernité, et il a rencontré dans Raymond Lopez, donc architecte urbaniste, on peut dire un comparse, et tous deux ont vraiment mené ce travail de manière très importante. Alors Raymond Lopez, il est à la fois architecte et urbaniste, Il est d'abord architecte École des Beaux-Arts et ensuite urbaniste à l'École d'urbanisme de Paris. Et c'est un fervent défenseur de la Charte d'Athènes de 1933, publiée par Le Corbusier. Par exemple, il critique la rue, l'alignement traditionnel des habitations sur le bord des rues n'assure d'insolation qu'à une partie minime des logis. Bon, et donc l'ensoleillement. Les clés de l'urbanisme sont la division des secteurs, habiter, travailler, se recréer, circuler. La hauteur, c'est en faisant intervenir l'élément de hauteur que solution sera donnée aux circulations modernes ainsi qu'aux loisirs. Et le piéton doit pouvoir poursuivre d'autres chemins que l'automobile. C'est ce qu'on appelle aussi le zoning, dont voici un exemple schématisé par Michel Allais, un collaborateur de Lopez. Donc circuler au rez-de-chaussée, travailler et habiter. Et donc les choses sont renversées, en fait, on habite en hauteur et on travaille au ras du sol. Alors, ce texte de Raymond Lopez, c'est vraiment important parce que c'est un fervent défenseur de la modernité. Donc, il dit, il est content parce que la Seconde Guerre mondiale, contrairement à la Première Guerre mondiale, dont la reconstruction avait été très traditionnaliste, régionaliste, la Seconde Guerre mondiale, elle, a donné lieu, souvent, pas toujours, mais souvent, à des villes neuves, en fait. On veut construire des villes neuves. Pour s'inspirer par la Charte d'Athènes. Alors, Raymond Lopez, ce n'est pas un personnage, quand vous lisez ses textes, ce n'est pas un personnage très sympathique. Par exemple, il est tout à fait contre ce qu'il appelle le vin peuple, dont les réactions préfabriquées sont affublées du titre ronflant d'opinion publique et dont le goût consiste à louer systématiquement tout ce qui est vieux ou semble vieux et à dénigrer systématiquement tout ce qui est nouveau ou semble nouveau. Donc vous voyez, le personnage n'était quand même pas très, très sympathique. Et donc il est connu pour avoir travaillé au front de Seine, par exemple avec Henri Potier, dont on parlera tout à l'heure, où il a construit la caisse d'allocation familiale aussi à Paris, que vous voyez sur la gauche. Le contexte, bien sûr, local, c'est aussi la reconstruction. Donc ce que vous voyez là, la collégiale, vous la devinez tout en haut, c'est les quartiers reconstruits, les bas quartiers qui n'avaient pas été bombardés, mais qui vont être reconstruits par Raymond Lopez, justement, dans le cadre de cette modernité. J'en ai déjà parlé, de ça je ne reviens pas. Raymond Lopez, il a aussi construit le lycée, juste à côté du Val-Fouré. Donc, à la fois le lycée que vous voyez là, le lycée Saint-Exupéry, avec son très beau réfectoire, et puis le lycée, il a fait les plans, mais il n'a pas pu le construire, c'est son fils Rémi Lopez qui l'a construit, puisqu'il est mort en 1966. Et donc voilà le projet de Raymond Lopez du Val-Fouré. En 1954, la ville achète le terrain de l'aéroclub. En 1958, le plan de Lopez que vous voyez là est approuvé par le conseil municipal. Et en 1959, la ZUP du Val-Fouré est créée. Il faut dire que c'est en décembre 58 que les ZUP avaient été créées. Donc on est vraiment au tout début. Alors ce premier projet, donc tel que vous le voyez ici, applique tous les principes chers à Raymond Lopez. Il prévoyait 5780 logements, la remise en cause du logement individuel, des impératifs d'air, d'espace et de lumière. Donc c'est des logements avec loggia, des logements traversants peu épais, et puis surtout la recherche du confort, cuisine moderne, salle de bain, chauffage central, eau chaude. Alors, je trouve qu'il est intéressant d'opposer. Donc, ça, c'est un pavillon qui a été dessiné par Marabout. Donc, on est dans les années 30. C'est la maison individuelle. Les Français préfèrent la maison individuelle. Donc, on leur fait des maisons individuelles. Mais si vous regardez ce petit pavillon, donc, le rez-de-chaussée est en haut. Le voici. Vous entrez, vous avez la cuisine familiale, une chambre, des toilettes. Et à l'étage, deux chambres. Donc, c'est vraiment relativement réduit. Il n'y a pas de salle de bain. Par exemple, si vous regardez les plans maintenant de ce quartier-là, vous voyez, donc je crois que j'ai mis un détail, il y a un séjour, il y a deux ou trois chambres selon le cas, et puis une cuisine et une salle de bain qui est installée à chaque fois. Vous les voyez, elles sont à gauche et à droite. Donc c'est vraiment la modernité, et le film qu'on a vu insistait bien là-dessus. Alors, donc, ce projet a été loué par les les urbanistes, les architectes de l'époque. Et l'architecture d'aujourd'hui en parle en 1958. Donc, il consacre un numéro spécial à l'urbanisme dans lequel il vante le travail de Raymond Lopez. Le Val-Fouré, donc, vous le savez, est divisé en sept secteurs, donc qui au départ avaient des numéros, puis qui ensuite ont été dotés de noms d'écrivains, inventeurs, musiciens, qui correspondent aux noms des rues qui sont avec. Et en fait, vous voyez, l'ordre, les numéros, les écrivains numéro 1 n'est pas le premier à être construit, c'est le numéro 2, donc, c'est-à-dire les inventeurs. Et les choses, on est allé du sud vers le nord, c'est très important, parce que au fur et à mesure qu'on avance, la densité se fait de plus en plus grande. Alors, de nombreux architectes ont collaboré à ce travail et de nombreux mandataires aussi, par exemple le logement français, le foyer du fonctionnaire et de la famille, donc, et des architectes à la fois renommés, par exemple Henri Potier, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est premier, second Grand Prix de Rome. Monsieur Wasserman aussi, qui est un architecte russe qui avait fait l'école des Beaux-Arts, et puis des architectes locaux, par exemple Monsieur Gojard, Monsieur David, Monsieur Houdard, qui sont des architectes de Mantes. Donc il y a et Vassy aussi, ah oui, j'ai oublié Vassy, qui sont des architectes de Mantes, donc il y a une collaboration en fonction des lieux. Alors, j'aime beaucoup ce plan parce que en rouge, vous voyez le projet de Raymond Lopez, qu'on a essayé de reporter sur le cadastre actuel. Donc, vous voyez combien les choses ont été densifiées par rapport au point de départ. Alors, voici donc une vue aérienne, mais vous en verrez d'autres. Donc, je passe là-dessus. On voit bien la route, la nationale, donc la voie ferrée au premier plan, la nationale au deuxième plan. Donc, le secteur 1 qui est construit. Puis, au fur et à mesure qu'on va vers la Seine, donc les choses avancent. Alors, évidemment, toutes ces constructions, donc en gros, c'est en 10 ans que le Val-Fouré a été construit, pour faire simple, n'auraient pas été possibles sans un procédé innovant qui est le chemin de grue, par exemple, c'est-à-dire le fait, vous voyez ici, on installe une grue qui se déplace en fonction du développement de l'immeuble. C'est un gain de temps énorme. Voici une vue aérienne du Val-Fouré en 1976, c'est-à-dire au moment de sa plus grande concentration. Et vous voyez que vers le nord, donc, on n'est plus du tout on a des immeubles qui forment des lignes coupées. On n'est plus du tout dans les barres rectilignes qu'avait prévu Lopez. Alors, je ne vais pas détailler chacun des quartiers parce qu'on y passerait beaucoup de temps. Mais celui-ci me paraît bien emblématique. Donc, c'est le quartier 1. Et vous voyez les trois tours qui marquent l'arrondi qu'on voit ici. Ce sont les trois tours qui ont été détruites relativement rapidement. Elles faisaient identité, en fait, elles marquaient le territoire à son entrée. Et de l'autre côté, il y avait les tours Sully, qu'on va voir, qui elles aussi ont été détruites. Alors voici ces tours, c'est Wasserman qui les a dessinées. Voici des tours dessinées par Longepierre. Donc on est toujours dans le même module. Et puis là, les tours d'Henri Potier, justement, tour Sully, qui se trouvait à l'entrée du côté de Rony. Et ça, c'est la tour Vega, donc qui a été transformée depuis, doublée par l'extérieur pour des problèmes d'économie d'énergie. Raymond Lopez, donc non seulement lui, il a fait le plan d'ensemble, il l'a adapté au fur et à mesure qu'on lui disait qu'il fallait densifier, et il a quand même dessiné des bâtiments, dont celui-ci, donc qui est le centre social Chopin, et qui est bien, vous voyez en haut le dessin tel qu'il a fait, en bas tel qu'il est toujours aujourd'hui. Il a construit aussi une chaufferie, une énorme chaufferie qui chauffe toujours tout le Val-Fouré. Alors c'est vrai qu'il paraît que quand on est tout à fait au nord, on est un peu moins bien chauffé que quand on est plus près de la chaufferie, mais néanmoins, c'est Raymond Lopez qui l'a faite, et les chaudières ont été faites par Sulzer, donc vraiment juste à côté. Voilà la chaufferie telle qu'elle est aujourd'hui. Le château d'eau, bien sûr, Longepierre, qui est très important. C'était vraiment l'idée, c'était de doter l'endroit, ce grand ensemble, de tous les équipements. Donc, par exemple, équipements religieux. Donc, dès 1965, il y avait une église provisoire qui, en 1968, a été transformée en église. Donc, c'est l'actuelle église Saint-Jean-Baptiste. Il a fallu attendre un peu plus de temps, mais en 1981, donc une grande mosquée a été construite par l'architecte Michel Dizneuf et puis un architecte marocain, Bem Kemsi. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est la première mosquée après la mosquée de Paris, construite en France, après la grande mosquée de Paris dans les années 20. Donc, c'est vraiment une étape importante. Alors, ce que je voudrais, je vais bientôt m'arrêter, mais je pense qu'il est intéressant de lire. Donc, le Valfouré a été observé, en fait, à la loupe pendant toute sa vie, et il l'est toujours aujourd'hui. Et en 1965, une enquête a été faite, et on a demandé aux gens pourquoi ils étaient venus au Valfouré. Alors, il y a trois sortes de réponses. Les immeubles sont loués par une grande usine, par exemple Simca, qui avait beaucoup de logements. Les familles manquaient de place ou vivaient dans des appartements insalubres, donc c'est la modernité qui attire. Et pour les copropriétaires, ils ont acheté ici car ils ne trouvaient rien ailleurs, donc c'est les prix modérés, enfin, ou les bas prix. Donc il y a vraiment trois éléments. Et ils sont contents du confort et des loyers. Ils trouvent que le confort est satisfaisant, les loyers corrects. En revanche, les charges sont excessives, notamment évidemment dans les tours. Il y a les charges dues aux ascenseurs qui doivent être considérables. Et un sujet de plainte, le manque de volets et le chauffage par le sol, trop inégal et fatigant. Et puis, donc, en 1965, on n'a pas encore le centre commercial qui sera construit un peu plus tard, en 1970. Et donc, ils trouvent que le centre commercial secondaire est jugé trop cher. Les transports urbains trop onéreux et trop peu fréquents. On est toujours dans les mêmes problèmes. Les relations humaines trop peu développées. Il n'y a pas de problème de police particulier, sauf des vols de caves. Et il est à noter qu'en 1965, de nombreux foyers n'ont pas de voiture. Ça, c'est extrêmement important. Du coup, le Valfouré avait une allure verte beaucoup plus importante qu'elle n'est aujourd'hui, puisqu'il y a beaucoup de voitures. Et peu partaient en... Les 3/5 qui partent en vacances, des habitants partent en vacances. Et parmi les équipements appréciés se trouve la piscine, donc. Et on demande une poste, un commissariat, une gare. Et donc, quand même, l'impression générale, c'est une cité dortoir. Les gens désireraient le voir plus vivant. En 1969, nouvelle enquête, on a les cadres professionnels, 65% d'ouvriers, 25% d'employés, 5% d'artisans, 2% d'employés, 1% de cadres moyens, et 20% des habitants sont des Mantais anciennement mal logés. Donc, il y a vraiment une volonté de trouver mieux. Et en 1969, il n'y avait que 9 commerces, dont 4 alimentaires, d'où le projet du centre commercial donc qui sera fait un peu plus tard. Et en 2008, un nouveau bilan, enfin j'en passe, hein, il y en a beaucoup, mais dit, et je pense que, enfin, vu de l'extérieur, c'est l'impression que ça donne, du fait de l'éparpillement des groupes scolaires, on ne trouve pas de centre qui jouerait le rôle d'une place de village. On ne voit pas où pourraient se rencontrer les habitants de cet ensemble sans place centrale. Donc, les habitants de la ZUP n'ont pas le sentiment d'appartenir à un même ensemble, mais à des quartiers, en fait, plutôt. Et donc, cette densification, c'est faite en même temps qu'avait lieu la grande crise de 1973, donc perte d'emplois extrêmement importante, et notamment les populations de main-d'œuvre non qualifiée qui travaillaient chez Simca, voire après Peugeot et chez Renault, ont été les premiers touchés, en fait, parce que c'était des ouvriers sans qualification. Donc, du coup, les difficultés sont apparues. En 1984, il y a un important programme de réhabilitation donc, qui a été fait par la ville et qui concernait 1400 logements en première phase. Et puis, en 1991, donc, les émeutes ont fait que vraiment il y a une prise de conscience importante de ces problèmes. Et donc, le Valfouré fait partie des trois premiers quartiers qui ont bénéficié d'un grand projet urbain avec Clichy, Montfermeil et Vénissieux. Donc, c'est vraiment un changement important. Et l'idée est venue de dédensifier le quartier, donc. Et au total, 13 tours et plusieurs bars, soit 2000 logements, ont été détruits. Donc on était parti d'un projet qui prévoyait autour de 5000 logements. On était arrivé à 8000 logements et on en a 2000 de moins. Et donc, clairement, le Val-Forêt aujourd'hui est en quête d'un nouveau visage avec la construction du centre aquatique que vous voyez à droite et puis l'hôpital aussi qui s'est délocalisé, on va dire, et qui est venu s'installer ici. Voilà, je vous remercie de votre attention. J'ai été vite, j'espère pas trop long.
Merci beaucoup, Roselyne. Merci.